un podcast France Culture.
Deuxième jour de notre série sur les gagnants et les perdants de la fête olympique. Car si les JO de Paris 2024 sont très rentables pour les entreprises qui ont signé de juteux contrats, ils sont pour d'autres un accélérateur de précarité. Il y a ces habitants de Seine-Saint-Denis qui ont été déplacés de force, ces ouvriers sans papiers employés sur les chantiers olympiques, et même les athlètes qui, pour une partie d'entre eux, continuent à vivre sous le seuil de pauvreté. Des athlètes aux travailleurs, les perdants de la fête, c'est notre sujet aujourd'hui. Et pour en parler, nous accueillons Jade Lingard, journaliste chez Mediapart, en charge du pôle écologie, autrice de Paris 2024, une ville face à la violence olympique, parue aux éditions Divergence en janvier. Également avec nous en duplex de Nantes, Sébastien Fleuriel, sociologue du travail et du sport, professeur à Nantes Université, auteur de cet ouvrage, Le sport de haut niveau en France, sociologie d'une catégorie de pensée, publié aux presses universitaires de Grenoble. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancé, Anouk Milliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender. Bonjour Sébastien Fleuriel et Jade Lingard.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
À tous les deux d'être avec nous. Alors Jade Lingard, d'abord, comment et à quel moment avez-vous commencé en tant que journaliste à Mediapart à vous intéresser aux perdants de la machine olympique ?
Bah, écoutez, en fait, très tôt, car j'avais en souvenir ce qui s'était passé lors de la construction du Stade de France. Alors, ça remonte en 1998 et j'avais le souvenir que pour construire ce stade, tout un campement de personnes roms avait été déplacé et on avait attiré mon attention sur le fait que l'après, qui est aujourd'hui le quartier de la Plaine Saint-Denis, et n'a aucun rapport avec ce qu'il était auparavant. Et donc, il m'a semblé tout de suite qu'il était important de documenter qui vivait sur le périmètre où a été construit depuis le village olympique, qui utilisait le parc Georges Valbon où a été construit le village des médias. Et donc, en fait, très vite, je me suis rendue sur ces terrains-là.
Et pour vous, parmi ceux qui payent le prix fort, il y a des travailleurs du BTP, des athlètes et puis des citoyens ordinaires donc, qui voient leur ville se transformer.
Ben oui, parce que en fait, ce qui est peu perçu de l'extérieur, c'est que les Jeux olympiques, au-delà de la fête sportive qui est bien évidente, sont aussi des gros projets d'aménagement urbain. Et dans le cas de Paris 2024, c'est ce qui s'est passé. Alors, ce qui aussi a été un peu compliqué, je pense, à le rendre visible, c'est le fait que pour les Jeux de l'été 2024, on construit beaucoup moins d'ouvrages que ce qui a pu se passer précédemment.
95% des infrastructures existaient déjà.
Voilà, existaient déjà. Mais pour autant, il y a quand même des constructions, et notamment d'un quartier, le village olympique. Ça fait partie des obligations, en fait. Quand on est une ville hôte des Jeux olympiques, il faut construire un village olympique. Paris 2024 a rajouté la construction d'un village des médias qui n'était pas obligatoire. Village n'est pas est un terme, je dirais, officiel déposé par les JO, mais ne correspond pas du tout à ce qui est construit en réalité, qui sont en gros des quartiers qui vont servir à accueillir les athlètes et leurs délégations pendant les Jeux et des journalistes et personnels de médias sur le village des médias. Et ensuite, ils vont devenir des quartiers d'habitation. Et c'est ça, en fait, qui provoque des bouleversements de vie, puisque des personnes ont été expulsées de chez elles en raison de ces chantiers.
Ils sont en train d'expulser pas mal de personnes pour pouvoir dégager les tours le plus rapidement possible. Ouais. On a eu la visite d'un huissier qui est venu à domicile, mais je n'étais pas là parce que j'étais du coup au travail. Donc ils ont trouvé mon conjoint. Comme mon conjoint n'est pas sur le bail avec moi, son nom n'apparaît pas. Donc ils ont déduit que c'était une sous-location. Donc j'ai été expulsée le 31 octobre à 8h du matin. Il y avait les forces de l'ordre. Donc du coup, ils m'ont dit que je devais quitter le logement. J'en fais des cauchemars encore. Là, je fais 2 jours chez ma sœur qui est à Stein, 2 jours chez mon frère qui est dans le 77. J'arrive pratiquement en retard tous les jours au travail en ce moment. C'est très compliqué. Et même dans le social, les loyers ils augmentent aussi. Ça va être neuf, ça va être beau. Moi, mon rêve, ça aurait été de continuer à vivre ici, hein, je vous le dis honnêtement. C'est bien beau de faire tout ça, mais nous, les habitants de Marcel-Paul, on peut pas y accéder.
Voilà le témoignage d'une habitante de la cité Marcel Paul à l'île Saint-Denis dans un reportage du Parisien du 24 décembre 2023. Les JO sont souvent synonymes d'expulsion et de destruction de logements et on l'entend, Paris 2024 ne fait pas exception, Jeanne Lingarde.
Oui, alors Paris 2024 ne fait pas exception, même s'il y a moins de personnes qui ont été expulsées pour cette édition qu'il y en a eu par exemple à Rio en 2016 ou encore pire à Beijing.
C'était 1,5 million de personnes qui avaient été déplacées pendant les JO de Pékin.
De Pékin, donc quelque chose de colossal, de assez monstrueux en termes d'impact social. Là, ça n'a rien à voir. Mais néanmoins, c'est à chaque fois des cas qui peuvent être dramatiques pour les personnes. Et par exemple, il y a tous les habitants d'un foyer de travailleurs étrangers, de travailleurs immigrés, un foyer ADEF, qui lui se trouvait pile sur l'emprise de ce qui est devenu le village olympique, qui a été, ce foyer a été détruit. Les gens ont été expulsés. Alors, ils ont été réhébergés avant un relogement définitif. Donc ils n'ont pas été laissés à la rue. Mais néanmoins, ils ont été forcés en fait, de quitter leur quartier. Et pour une partie d'entre eux, c'était des personnes âgées, des Chibani, des messieurs parfois à la retraite, qui partent pour certains parlant mal français. Donc je veux dire dépendant d'un tout un réseau d'entraide et d'amitié qui a été bouleversé en fait, par ce déménagement. Là, les personnes qu'on vient d'entendre sont des habitants de Marcel Paul. Alors Marcel Paul, en deux mots, c'est très intéressant comme situation parce que c'est une cité de logements sociaux qui se trouve sur l'île Saint-Denis. Le village olympique, il est construit sur trois villes. L'île Saint-Denis, Saint-Denis et Saint-Ouen. Et sur l'île Saint-Denis, donc la cité de Marcel Paul faisait l'objet d'un projet de rénovation urbaine depuis plusieurs années parce que c'est une cité qui était en grande difficulté économique avec des gros problèmes d'insécurité et un gros trafic de drogue. Mais ce qui s'est passé, et c'est là où c'est intéressant quand on réfléchit un peu à c'est quoi l'impact d'un gros projet comme les Jeux Olympiques sur la vie des personnes, c'est qu'à partir du moment où les Jeux Olympiques ont été attribués à Paris, le processus de rénovation urbaine a été accéléré. Et donc, les personnes qu'on a entendues, elles ne sont pas littéralement virées de chez elles par les Jeux Olympiques, mais en revanche, le fait que le village se construise si proche de là où elles habitaient a tout brutalisé dans le processus de relogement, les a mis sous pression, a obligé un certain ménage à accepter des propositions de relogement qu'elles ne souhaitaient pas, parce que trop cher, parce que trop loin, certains logements en mauvais état. Donc, il y a une forme de brutalisation qui a été réelle et qui est d'autant plus difficile à vivre pour ces personnes, parce que j'en ai rencontré plein des habitantes et habitants de Marcel Paul, c'est d'autant plus difficile à vivre pour elles que, très peu de médias en ont parlé, donc c'est largement invisibilisé, et encore plus, elles voient le quartier où elles ont toujours vécu, et certaines depuis plusieurs décennies, s'améliorer, mais pas pour elles et eux. Et là, il y a quelque chose, je pense, qui est quand même assez spécifique aux aménagements olympiques et qui crée une forme de violence, sociale, de violence olympique pour les personnes qui sont directement concernées. Le quartier s'améliore, les élus sont très contents, le département, la municipalité, la communauté d'agglomération, tout le monde tisse les louanges de l'amélioration que les Jeux Olympiques vont apporter au territoire, dans son ensemble. Mais dans le micro-exemple des petits quartiers et des cités, parfois, en fait, on se retrouve dégagé.
Donc on voit qu'on assiste à des destructions d'immeubles d'habitation pour construire des infrastructures olympiques, mais aussi à des démantèlements de campements informels et des déplacements de sans-abri. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette politique qui est menée dans le cadre des Jeux Olympiques, Jeanne Lingarde ?
Moi, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a les personnes qui sont expulsées de manière très directement en lien avec les Jeux Olympiques, dans les squats. Et là, c'est par exemple le cas assez tragique du squat Unibéton qui se trouvait sur l'île Saint-Denis, qui a été expulsé l'année dernière. Assez tragique parce qu'il y avait environ 400 personnes qui habitaient dans ce squat, donc un très gros squat, un des plus gros de France. Les personnes étaient pour certaines sans papiers, mais pas toutes. Certaines étaient en situation régulière parce que demandeuses d'asile ou détentrices du statut de réfugiés. D'ailleurs, certaines de ces personnes travaillaient sur le chantier du village olympique. Il y avait vraiment une cruauté de la situation et elles ont été expulsées sans relogement. Et qu'est-ce qu'on a vu il y a 10 jours ou 15 jours maintenant ? L'expulsion d'un autre énorme squat en région parisienne, toujours à Vitry-sur-Seine. Et dans ce squat, en fait, vivaient certaines des personnes qui auparavant habitaient dans le squat Unibéton. Donc il y a une sorte de continuité de la précarité pour ces personnes qui sont en squat. Il faut quand même le redire, qui sont en squat non pas par choix, mais par nécessité, du fait, pour celles qui ont des papiers, du manque de logements sociaux et des interminables listes d'attente pour obtenir des logements sociaux. Et donc, on a ce processus-là qui est le processus de la précarité urbaine et qui est très fort en Seine-Saint-Denis, hein, où il y a beaucoup de personnes en grande difficulté de logement. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que bien sûr, c'est pas les Jeux Olympiques qui inventent ce processus. C'est-à-dire ce qui se passe à la fois, le manque de logement social, c'est malheureusement une réalité dans toute la France et en plus qui n'est pas aidée avec la politique actuelle du gouvernement. Les processus d'éviction sociale des habitantes et habitants les plus précaires loin des centres-villes, ça bien sûr ça existe avant les Jeux Olympiques, les processus de gentrification, métropolisation autour de Paris, ils sont considérablement accélérés par les travaux du Grand Paris, et notamment la construction de stations du Grand Paris Express qui autour de chacune d'entre elles créent de nouveaux quartiers qui ont en gros un standing en fait supérieur à ce qui précédait. Donc tout cela ça s'additionne, et dans ce contexte-là, les Jeux Olympiques sont à la fois encore un accélérateur parce qu'ils ont une deadline, contrairement à la métropole du Grand Paris, à la construction du Grand Paris Express, je veux dire, les JO, il faut que ce soit prêt le 26 juillet. Et du coup, cette date du 26 juillet, qui est la date de la cérémonie d'ouverture, en fait, elle a été le point de calage de tout un rétro-planning, en fait, un compte à rebours d'aménagement, et ce qui a provoqué à des moments des recrudescences d'expulsions. Ce qu'on a vu depuis la fin de l'année dernière, c'est parce qu'en gros, il faut faire place nette pour les Jeux Olympiques, et donc, c'est à la fois directement lié aux JO, mais ensuite aussi utilisé, je veux dire, par les préfectures et par les municipalités pour mettre en œuvre ce qu'elles voudraient faire. Et là, elles ont l'occasion de pouvoir le mettre en place.
Et cela malgré des résistances, des mobilisations citoyennes. Notamment, il y a eu cette mobilisation contre la destruction des potagers et jardins d'ouvriers à Aubervilliers à laquelle vous avez participé, Jeanne Lingard. Vous êtes habitante par ailleurs d'Aubervilliers. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé?
Alors oui, à Aubervilliers, c'est emblématique en fait, je pense, de ces aménagements. C'est-à-dire que donc se trouvent des jardins ouvriers, les jardins ouvriers des Vertus, dans le quartier du Fort d'Aubervilliers, jardins qui ont été créés au début du XXe siècle. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que a été conçu un projet de piscine, puisque à côté des ouvrages directement utiles aux Jeux Olympiques, il y a des ouvrages d'accompagnement qui sont des piscines d'entraînement des Jeux Olympiques, qui sont en gros financées en partie par les Jeux et qui servent en fait à laisser un héritage pérenne aux habitantes et habitants bien après les Jeux. Donc piscine à Aubervilliers, très bien. Et simplement, ce qui s'est passé, c'est que cette piscine était dans son premier projet accompagnée d'un solarium, et donc il avait été prévu de construire ce solarium sur des jardins, ces jardins ouvriers, sur des parcelles, sur 5000 mètres carrés de parcelles. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que ben il y a des habitantes et habitants, donc moi j'ai fait partie, des jardiniers et jardinières qui se sont opposés, non pas aux Jeux Olympiques, non pas à la piscine, mais à la construction de ce solarium sur ces jardins. Et c'est vrai que ça c'est une histoire qui a touché beaucoup de gens, parce que le symbole, en fait, à la fois des puissants Jeux Olympiques face aux petits jardiniers d'Aubervilliers, et aussi du solarium, quoi. Prendre le soleil dans une époque de changement climatique, plutôt que de laisser les gens cultiver leurs légumes dans un espace de subsistance, qui est aussi un espace, il faut dire la vérité, de rencontres, de liens sociaux, et puis de respiration, quoi, dans des quartiers qui sont très pollués et très bétonnés. Bon, ça a touché beaucoup de gens, cette histoire.
L'affaire a été portée devant la justice. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Portée devant la justice. La justice a arrêté la construction du solarium. Malheureusement, trop tard, les parcelles avaient déjà été détruites. Et aujourd'hui, la piscine a été construite, donc elle va être ouverte, sans le solarium. Et à la place de l'ancien solarium, un grand trou est resté pendant des mois. Et aujourd'hui, il va servir d'emprise de chantier à une gare du Grand Paris Express, alors que la justice a enjoint à la mairie d'Aubervilliers de reconstituer les jardins. Donc ça montre aussi qu'on est sur des territoires qui sont sans arrêt dans le collimateur, si je puis dire, des aménageurs.
Au-delà de la Seine-Saint-Denis, qui est particulièrement touchée par ces questions de déplacement, démantèlement de campements informels, plus largement, il y a un effet des JO sur la disponibilité des logements en Île-de-France et sur le prix des loyers, Jeanne Lingard.
Oui, alors, bon, c'est pareil, les JO font partie d'un processus de métropolisation, de Grand Paris, de développement de Paris, d'attraction touristique, enfin bon.
Ils n'ont pas inventé la crise du logement. Ça.
Voilà, c'est ce que je veux, parce que voilà, c'est un accélérateur. Mais c'est vrai que ça a un effet. Alors, bon, sur l'hôtellerie, c'est évident. Là, on a vu, même si aujourd'hui, les hôtels disent qu'ils sont un peu déçus du niveau de réservation, en fait, les prix qui sont proposés sont tellement au-dessus de la moyenne que, en fait, là, il va y avoir beaucoup d'argent gagné par l'hôtellerie. Ce qu'on a vu aussi, qui était assez terrible et qui a été pointé par un rapport parlementaire l'année dernière, c'est que des hôtels sociaux, qui servaient à l'hébergement d'urgence, donc notamment de familles à la rue, etc., ont fermé pour se reconvertir en hôtel conventionnel pour viser la clientèle des touristes. On a vu aussi les prix des Airbnb qui ont énormément augmenté, Airbnb partenaire des Jeux Olympiques. C'est quand même intéressant, je veux dire, tout ce, vraiment, ça fait partie, enfin, c'est assumé, en fait, hein, de nourrir cette économie-là de la location touristique.
Qui plafonne quand même l'augmentation Airbnb à 85%, je crois.
Ouais, tout à fait. Non, tout à fait. Vous avez raison, c'est plafonné, mais néanmoins, tout ça s'ajoute en fait pour jouer dans, un, dans une augmentation de, des prix enfin, pour se loger. Ça, c'est pour le temporaire pendant les Jeux. Et ce qui va être très intéressant à suivre, c'est ce qui va se passer autour du village olympique, puisqu'il va devenir un quartier. C'est un quartier d'habitation qui est essentiellement privé, hein, 70% du logement privé. Donc, il va être acheté par ses futurs occupants et à des prix qui sont d'ores et déjà très au-dessus des prix moyens de la Seine-Saint-Denis. On est à peu près 30% au-dessus. Mmh. Donc, à voir ce que ça va devenir ensuite. Mais là, ce qui se met en place aussi, c'est la pérennisation de quartiers d'habitation qui s'adressent à des gens qui ont plus de moyens que les habitantes et habitants actuels.
Même si ce que l'on a vu, c'est tout de même une offre tellement pléthorique d'hébergement pour les JO que les prix se sont un petit peu calmés tout de même.
Oui, oui, c'est pour ça. C'est pour ça, il y a ce truc de... En fait, c'est l'hôtellerie. C'est pour ça que je pense que c'est important de distinguer le logement pendant les Jeux. Donc ça, c'est en gros les gens qui veulent se faire un peu une aubaine. C'est l'aubaine, qu'on soit hôtelier, qu'on soit particulier qui loue, qu'on soit un professionnel du logement, il y a l'aubaine pendant les Jeux. Et il y a ensuite, ce qui sera important à suivre, c'est l'effet pérenne des aménagements construits pour les Jeux, mais qui vont durer ensuite pendant plusieurs années.
France Culture.
Je ne vous demande pas un budget pour créer une fédération de sport de glace. Tout ce que je désire, c'est un chèque de 20 000 dollars pour nous inscrire aux Jeux Olympiques. C'est tout!
Mais comment espérez-vous arriver jusqu'aux Jeux Olympiques?
Entendez-vous l'écho?
Ces quatre malheureux garçons ignorent tout de votre sport favori.
Monsieur Coolidge, depuis que je suis en âge de courir, je me suis toujours intéressé à la question. Quand je vous dis qu'ils ont des chances à défendre aux Jeux Olympiques, croyez-moi, je sais de quoi je parle.
Tiffaine de Roquigny.
Nous parlons des effets négatifs des Jeux Olympiques sur la population francilienne en compagnie de Jeanine Garde et de Sébastien Fleuriel sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Parmi ces effets négatifs, il y a également l'augmentation des prix du transport. Le choix qui a été fait a été de faire payer les touristes plutôt que les usagers habituels ou encore tous les contribuables par l'intermédiaire de l'impôt. C'était aussi une hypothèse.
Oui, oui, tout à fait. Alors, le choix, alors c'est pas tout à fait que les touristes qui vont payer le prix. Donc, le prix du billet de métro va passer de 2,10 euros à 4 euros et même à 6 euros pour les transports Paris-Banlieue. Donc, ça, d'ailleurs, les élus de la Seine-Saint-Denis ont protesté hein, contre ça, même s'ils sont très favorables aux Jeux Olympiques et très impliqués dans leur organisation. Là, en revanche, ils ont protesté contre cette décision qui est une décision de la présidente de région, Valérie Pécresse, les Républicains, donc de droite, alors eux sont plutôt des élus de gauche. Donc bon, il y a tout un conflit politique derrière. Mais donc en gros, effectivement, le choix a été fait de faire financer en très grande partie, en gros, c'est l'augmentation du trafic pendant le mois d'août et début septembre. Mais surtout pendant le mois d'août, il y aura plus de trafic qu'habituellement à cette période-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle il fallait trouver un financement. Décision prise d'augmenter le prix des billets. Mais juste pour dire, c'est pas que les touristes. Parce qu'en fait, certes, les détenteurs de Pass Navigo n'auront pas, l'abonnement pour ceux qui sont pas parisiens, l'abonnement pour les transports va pas augmenter. Mais par contre, pour tous ceux qui ont un usage... pas
ponctuel.
Ouais, ponctuel, enfin régulier, mais régulier ou pas, mais en tout cas pas par abonnement, eux ils vont payer le même prix hein, que les touristes. Donc c'est vrai que ça a beaucoup choqué parce que ça fait reposer, y compris sur des gens qui ne seront pas spectateurs, le prix de ces aménagements, alors qu'au tout départ, si on se souvient, dans le dossier de candidature de Paris, il y avait la promesse que pour les visiteurs des Jeux, les transports seraient gratuits. Mais là, c'est l'une des promesses en fait faites qui n'était pas tenable économiquement.
Ce que l'on voit, Jeanine Garde, c'est que ces bouleversements dont on parle touchent avant tout des populations précaires et racisées, c'est-à-dire susceptibles de subir des discriminations racistes.
Oui, oui, bah oui, parce que c'est l'autre aspect, alors qui est très douloureux, hein, qui est évident, c'est que les personnes dont on a parlé depuis le début de l'émission, que ce soit les habitants du foyer ADEF, que ce soit les habitants du squat Unibéton, que ce soit les habitants du quartier Marcel Paul, sont des personnes qui sont des ménages ou des individus en situation économique précaire, l'immense majorité de ces personnes sont racisées. Et donc, même si, évidemment, l'intention des Jeux Olympiques n'est pas d'avoir une politique raciste. C'est pas du tout ce qu'on dit. En revanche, on voit bien que les personnes premières impactées par ces politiques d'éviction et expulsion sont des personnes très précaires et donc majoritairement des personnes racisées. Et donc, on ne peut pas ne pas se poser la question de la perspective terrible d'une forme de remplacement de population à la fin de ces aménagements. Et que et pourquoi dire cela aujourd'hui ? Ben pour regretter que n'aient pas été prises les mesures qui aurait permis de protéger ces personnes. Parce que, encore une fois, les évictions qu'on décrit depuis le début de l'émission, elles se produisent à chaque Jeux Olympiques, puisque le principe est toujours de construire les villages olympiques dans des quartiers défavorisés, de façon à provoquer le développement de ces quartiers, mais en réalité, de faire entrer des promoteurs et investisseurs immobiliers, et donc gentrifier. C'est-à-dire, on est dans l'ambiguïté de ces politiques, qui sont à la fois des politiques de développement territorial de mixité sociale, dirait le département de la Seine-Saint-Denis, mais qui sont aussi en fait des politiques de gentrification. Et donc on est au cœur de ce paradoxe-là, et donc avec des effets sociaux qui sont vécus, encore une fois, par les personnes directement concernées, pour certains avec une grande douleur.
Des personnes précaires que l'on retrouve sur les chantiers des JO.
Il n'y avait pas de contrat. On travaillait déjà 6 jours par semaine, de lundi au samedi. Les samedis, ils payent ça en cash, pas en chèque, ils donnent ça en liquide comme ça. Bon, les heures supplémentaires, ils nous ont dit déjà depuis le début que ça paye pas. Un gars qui est même tombé un jour, il a failli perdre ses bras, mais le lendemain, il est venu travailler encore.
Normalement, il doit nous donner des masques à filtre. Les masques, il y a un petit moteur qui tourne, qui donne l'air avant de rentrer. Tu mets des combinaisons, tu mets ces masques, mais il ne nous donnait pas ça au début. À la fin, il a ramené ça, mais pour ceux qui ont des papiers, si tu essaies de t'imposer, de demander tes droits, il te met à la porte.
Voilà un reportage de Diane Berger, diffusé le 6 juin 2022 sur France Culture. Que sait-on des conditions de travail sur les chantiers des JO, Jeanne Lingard ?
Alors, c'est très intéressant, parce que justement, il y a eu la tentative de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et donc, notamment, il y a eu la création d'une charte sociale au tout début des Jeux Olympiques, avec la participation active de la CGT, et notamment de son ancien secrétaire général Bernard Thibault, qui a mis en place toute une série de normes, et notamment de contrôle de ces chantiers par l'inspection du travail. Et ce qui fait que les chantiers qui ont été directement opérés par la Solideo, donc la société de livraison des ouvrages olympiques, qui est l'établissement public qui a coordonné la construction des ouvrages olympiques, ces chantiers, en fait, ont été extrêmement contrôlés par l'inspection du travail, ce qui fait que, de la vie un peu générale, ça s'est mieux passé sur ces chantiers-là qu'ailleurs. Il y a eu des accidents terribles, mais moins d'accidents. Il n'y a pas eu de morts sur les chantiers directement opérés par la Solideo, à la différence de ce qui se passe juste à côté du village olympique, sur le chantier de la gare de Pleyel, du Grand Paris, société du Grand Paris. Il y a déjà 3 personnes qui sont décédées. Les chantiers du Grand Paris Express sont très difficiles et très dangereux. Il y a donc plusieurs morts. C'est pas le cas pour les Jeux Olympiques, à l'exception de un chantier qui s'est passé à Paris, mais qui n'était pas justement sous coordination de la Solideo et donc pas couvert par la charte sociale et donc moins inspecté que les autres, et où un monsieur, Amara Dioumassi, est décédé tragiquement l'année dernière, écrasé par un engin de chantier. Et donc c'est là où c'est intéressant, si on peut utiliser ce terme sans doute déplacé concernant des situations dramatiques, c'est qu'on voit bien que quand on veut, on peut. C'est-à-dire qu'on voit bien que dès que le contrôle de ces chantiers est plus fort, en fait, on protège les travailleurs. Et il y avait un rassemblement le samedi dernier en soutien à la famille de Monsieur Dioumassi. Et il y a eu plein de paroles syndicales qui allaient dans ce sens-là, qui disaient, ouais, en fait, plutôt, ils voudraient utiliser les chantiers olympiques comme un point de levier pour obtenir plus. Mais pour autant, il n'en reste pas moins que, malgré tout, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que malgré toutes ces précautions et surveillance, ces contrôles, il y a quand même eu beaucoup de sans-papiers sur ces chantiers, donc employés par des sous-traitants, hein, c'est bien connu, les cascades de sous-traitance du BTP, et ce qui est quand même assez inhabituel, c'est que ces sans-papiers, ces travailleurs sans-papiers, ont réussi à s'organiser en coordination, ont fait connaître leur existence, ont bloqué à un moment le chantier de l'Adidas Arena, qui est un chantier d'équipement sportif à la porte de la Chapelle à Paris. Et en fait, ils ont obtenu gain de cause. Et c'est là qu'on voit que le fait que ce soit des chantiers olympiques, ça a joué en leur faveur, si je puis dire, parce que personne ne voulait entacher quelque part l'image des Jeux olympiques avec des travailleurs sans papier. Et donc, ils ont obtenu la régularisation. Donc ça, eux, ils en ont fait un usage stratégique très intelligent, si on peut dire, de cette situation. Mais c'est quelque part l'arbre qui cache la forêt des sans-papiers dans le BTP.
Il y a les travailleurs des chantiers et puis il y a les bénévoles. En tout, il devrait être plus de 45 000 ces bénévoles cet été pendant les JO de Paris. Et pour certains, il s'agit ni plus ni moins de travail dissimulé. C'est votre cas, Jadine Garde?
Moi, ma collègue Khadija Zerouali à Mediapart a publié la semaine dernière un article édifiant avec des témoignages de bénévoles. Et là, alors, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que pour certains, ils ont des horaires de travail qui sont des vraies journées de travail pour des boulots qui sont pas forcément très valorisants. Donner des informations à un endroit de la ville, être potentiellement chauffeur de personnes, on ne sait pas qui, y compris la nuit, donc un vrai travail. Et c'est vrai que voilà, on ne peut que s'interroger, quoi, entre d'un côté la quantité d'argent, 9 milliards d'euros à peu près, le budget des Jeux Olympiques, si on additionne Solidéo plus Cojop, c'est quand même beaucoup d'argent. À côté, tous ces bénévoles mis à contribution gratuitement. Alors certes, ils l'ont choisi.
Ah oui, parce qu'ils sont 300 000 à avoir candidaté et seuls 45 000 ont été sélectionnés.
Voilà, donc ils l'ont choisi. Donc c'est sûr, ils l'ont choisi, mais pour autant, est-ce que ça se justifie? Non, c'est vrai qu'il y a, certaines organisations syndicales défense de salariés qui sont... Je crois qu'ils regardent ça d'un peu près.
Sébastien Fleuriel, le travail gratuit dans le sport, de toute façon, c'est une pratique assez répandue.
Oui, c'est une pratique qui ressemble un petit peu à celle des artistes, d'une certaine façon. Les modalités d'intervention ou de faire travail échappent à la logique habituelle du droit du travail. On n'imagine pas un artiste compter ses heures quand il est en plein génie créateur, d'une certaine façon. Et on trouve un petit peu le même phénomène chez les sportifs, où c'est assez compliqué de les rendre comptables d'un droit du travail classique avec des horaires classiques, etc., parce que la compétition, elle a lieu souvent sur les temps de loisirs, le soir, le vendredi soir, les week-ends, pendant l'été, etc.
Mais ce qui est sûr, c'est que les bénévoles qui sont choisis sont les plus privilégiés parce qu'il faut pouvoir se loger à Paris. Il n'y a pas de traitement de faveur pour assister aux compétitions. Voilà, c'est un des aspects qu'on peut souligner, Jadeline Garde.
Oui, c'est vraiment eux. Ils sont là pour l'esprit des Jeux. Enfin, c'est quelque part, c'est ceux qui incarnent le plus la croyance dans cet esprit des Jeux et de la fête populaire. Mais enfin, c'est vraiment là, on est peut-être un peu au bout du slogan, l'important c'est de participer.
Vous avez parlé des artistes, Sébastien Fleuriel, et c'est intéressant puisque les artistes ont un statut d'intermittent du spectacle précisément. C'est ce qui manque aujourd'hui, selon vous, aux athlètes. On en parle juste après ça.
Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou, t'es mimi, dis-le-moi doudou, prouve-le-moi doudou, et ça c'est quel comportement doudou, tu me mens beaucoup. Beaucoup. Là c'est clair, il me fait tomber. Je le vois, laisse tomber. C'est qu'il est frais, je vois flou. J'aime quand t'es là, c'est tout. J'ai dit oh, oh, oh. J'ai juré qu'on est plus que poteau. J'ai dit oh, oh, oh. J'ai juré qu'on est plus que poteau. Parlons français, sois clair. J'ai passé l'âge de jouer. J'ai dit toi et moi on se sait. N'en fais pas trop, s'il te plaît. On perd déjà du temps à tester nos limites. Ta présence coûte cher, dis-moi quel est mon bénéf. En moi, tu pourrais voir nos projets, l'avenir. Mais nous brûler les ailes, il faudrait éviter. Aime-moi, doudou. Aime-moi, doudou. Montre-le-moi, doudou. T'es mimi, dis-le-moi, doudou. Prouve-le-moi, doudou. Et ça, c'est quel comportement, doudou. Tu me mens beaucoup. Ça, c'est quel comportement, doudou. Tu me mens beaucoup. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre, yeah. Chérie, laisse tomber. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise, ouais. Sinon laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre.
genoux piste. Longue est la liste. Pour mériter ce qu'on veut. J'ai barré tous les dalles. Maintenant à nous deux. Eh, il est dans ma tête, tête, tête. J'ai le cœur à la fête, fête, fête. J'crois bien qu'on est en osmose. Faut que ça s'arrête jamais. Non, non, jamais. Aime-moi, doudou. Montre-le-moi, doudou. T'es mimi, dis-le-moi, doudou. Prouve-le-moi, doudou. Et ça, c'est quel comportement, doudou. Tu me mens beaucoup. Ça, c'est quel comportement, doudou. Tu me mens beaucoup. Les soirs venus, faut qu'on se mette à l'aise.
Aya Nakamura, qui devrait chanter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho des athlètes aux travailleurs, les perdants de la fête. C'est notre sujet. Aujourd'hui, la journaliste Jadeline Garde et le sociologue Sébastien Fleuriel sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch avec un coup de main d'Inès Barja et mise en onde par Élise Leu. Alors, il y a la précarité des habitants de Seine-Saint-Denis expulsés de leur logement pour la construction de sites olympiques, celle des travailleurs sur les chantiers de la compétition et celle des athlètes eux-mêmes.
Les athlètes de l'athlétisme qui gagnent leur vie bien, correctement, je dis bien correctement, on va certainement pas s'amuser à comparer les revenus d'un athlète avec les revenus d'un footballeur, mais des athlètes qui gagnent correctement leur vie, il y en a une quinzaine à peu près en France. Après, ça a quand même énormément progressé. Nous, on était carrément fauchés. Je disais toujours, on est des millionnaires fauchés. C'est-à-dire qu'on voyageait dans des avions, on allait dans des hôtels 5 étoiles, on était reçus partout. Mais par contre, dans le porte-monnaie, il n'y avait que dalle et dans le frigo, il n'y avait que dalle. Il y a eu deux moments où je me suis sentie, alors là, pour le coup, très pauvre. Je venais de gagner ma troisième médaille au championnat d'Europe en salle et je me suis fait une énorme entorse. Et donc, j'ai eu une année off quasiment. Et en 6 mois, j'avais plus rien. C'est-à-dire que je n'étais plus sur la liste d'athlètes de haut niveau. Et on m'a dit, quand tu reviendras en équipe de France, on te soutiendra. Et donc ça, ça a été une période où, quand j'ai repris l'athlétisme, mon entraîneur de l'époque me cachait dans sa voiture pour me rentrer à l'INSEP et me donner des tickets repas pour que je puisse aller manger à la cantine. Je me souviens que après la naissance de ma fille, j'avais plus aucun sponsor, j'avais plus rien. Et que mon entraîneur m'avait filé 2 survettes, peau douce, il y avait marqué, c'était le sponsor. Or, l'année d'avant, j'étais médaillée des championnats d'Europe, j'étais en équipe de France, j'avais toujours le record de France, mais tout le monde disait, oui, elle vient d'avoir un enfant, elle a 27 ans, c'est foutu, elle reviendra plus. Et pourtant, j'ai encore été championne de France les 5 années qui ont suivi.
Marie Zévan Gépé, championne de saut en hauteur, au micro d'Adila Benedjaizou pour Les Pieds sur Terre, sur France Culture. Alors, comment les athlètes sont-ils rémunérés? Pour répondre à cette question, il faut peut-être commencer, Sébastien Fleuriel, par distinguer les athlètes d'élite des sportifs de haut niveau.
Oui, voilà, il y a plusieurs populations qui se cachent derrière ce terme, et c'est un peu là tout le paradoxe, c'est que en fait on est encombré sous l'ultra visibilité de quelques-uns, notamment souvent des sportifs professionnels qui sont rattachés souvent à des grands clubs, donc dans des sports collectifs, le football, le rugby, etc. Et en fait cette population-là qui renvoie plutôt à une population de salariés classiques, alors avec des grands salaires, etc., masque d'autres populations qui sont aussi des sportifs qui font de la performance, notamment une partie d'entre eux, tels qu'en athlétisme, qui gagnent leur vie en fonction de leurs résultats et qui émargent en fait dans les grandes compétitions. Donc, s'ils vont loin dans la compétition, ils gagnent beaucoup. Mais s'ils s'arrêtent assez tôt, ils gagnent rien. Et puis, il y a une troisième population qui est encore en arrière-plan, qui est encore plus invisible d'une certaine façon. Ce sont ce qu'on appelle les sportifs de haut niveau, qui renvoient à une qualité qui a été établie au milieu des années 70 avec la loi sur le sport en 75.
Alors, on va revenir sur cette loi, mais aujourd'hui, Sébastien Fleuriel, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une partie conséquente des athlètes qui vit sous le seuil de pauvreté? Je crois qu'ils étaient, c'était 40% des membres de la délégation française en 2016 lors des JO de Rio qui déclaraient vivre justement sous le seuil de pauvreté.
Alors, on ne sait pas exactement combien sont-ils aujourd'hui. Et je pense que l'Agence nationale du sport, qui est l'instructure qui est en gestion de cette population, n'a pas forcément envie de communiquer. Mais par ailleurs, je pense qu'elle n'a pas les éléments parce que la façon dont c'est fait ne permet pas forcément de le savoir. Donc, ce chiffre-là date effectivement de d'Olympiade de Rio. Depuis, on ne sait pas. Et je pense que le fait qu'on ne sache pas, c'est plutôt le signe que ce chiffre n'est pas forcément très amélioré.
Mais alors les choses ont tout de même progressé, même si les pouvoirs publics, Sébastien Fleuriel, refusent aujourd'hui de faire des sportifs, des travailleurs comme les autres. Et ça, je pense qu'il faut commencer par l'expliquer, c'est le cas depuis les années 60.
Voilà, alors... ça vient des années 60 parce que à ce moment-là, on est dans un contexte de guerre froide où les compétitions internationales prennent de l'ampleur pour les images des pays, etc. Et à ce moment-là, la France prend sa part aussi dans ce concert de compétition en disant bon, ça nous intéresse, on veut faire de la performance, mais on n'est pas encore sur la conception d'un statut à proprement parler. Ce qui se met en place, c'est un ensemble de dispositifs matériels, techniques, pour aider les sportifs à mieux s'entraîner et à mieux se préparer. Et donc, on a une succession de dispositifs qui vont se mettre en place à partir des années 60, à commencer par le programme de préparation olympique, qui s'appelle toujours comme ça, qui a changé de nom, mais c'est toujours l'idée. Ça se met en place dès les années 60. Et en fait, derrière ces programmes, c'est plutôt la mise à disposition d'entraîneurs, de salles de sport, etc. Donc, on n'est absolument pas sur la question d'un statut ou d'une qualité de sportif. Ça va venir plus tard, une fois que tous ces dispositifs vont être mis en place, qu'on a mis des centres de haut niveau, qu'on a mis en place ce qui va s'appeler plus tard des pôles France, qu'on a mis en place des sports-études, des sections sports-études, etc. Une fois que tout ça est en place, on se rend compte que les sportifs n'ont toujours pas de qualité à proprement parler. Du coup, dans les années 70, donc 10 ans plus tard, on commence à réfléchir à cette question.
Et ben justement, effectivement, dans les années 70, les pouvoirs publics cherchent à mieux soutenir les sportifs. Écoutez Pierre Mazaud, qui était alors secrétaire d'État au sport.
Nous nous situons, en ce qui concerne notre politique sportive, dans une voie moyenne entre l'étatisation et la privatisation. L'étatisation, cela signifie que seul l'État est concerné par les problèmes sportifs. C'est le système politique admis par les pays de l'Est. La privatisation, c'est le refus de l'intervention de l'État, système admis par d'autres pays comme l'Italie par exemple. Nous avons adopté un système intermédiaire, disons une voie moyenne, où il n'est point question de brider l'activité spontanée, mais il n'est point question aussi de la laisser jouer seule, de même que la Grande-Bretagne ou l'Allemagne de l'Ouest. Nous nous situons dans une politique, je le répète, à mi-chemin entre l'étatisation et la privatisation.
Sébastien Fleuriel, que change cette loi Mazaud de 1975 du nom du secrétaire d'État au sport Pierre Mazaud ?
Au fond, pas grand-chose, parce que précisément, étant une troisième voie qui est celle du Nini, qui résulte de l'espèce de bricolage dont j'ai parlé, qui donc s'intéresse plutôt aux conditions d'entraînement plus que à la question du statut, ça débouche sur quelque chose qui ressemble à pas à grand-chose d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce qui est en jeu ? En fait, au début, on parle bien d'un statut. Et quand on regarde dans les archives les discussions des parlementaires, c'est bien de ça dont il est question. On voudrait imaginer un statut. Sauf que le statut renvoie à une question de droit du travail, donc à un droit du travail. Et en gros, l'idée, ce serait de mettre en place une espèce de contrat qui serait un peu consolidé, etc. On ne peut pas mettre en place ce statut-là à ce moment-là parce que, Pierre Mazaud vient de le rappeler, d'une certaine façon, on est coincé entre un modèle qui serait celui de la privatisation, c'est le modèle américain, c'est pas dit clairement, mais c'est le modèle américain, avec en fait des sportifs qui sont essentiellement sponsorisés, bien qu'ils soient sous statut universitaire, et en fait qui ne répondent qu'à la question de l'argent et des sponsors. Et ça, la France n'en veut pas, parce qu'il y a une espèce de croisade morale autour de cette question, en disant non, il n'est pas question que nos sportifs soient intéressés par l'argent. Au contraire, la beauté du sport implique un désintéressement total, etc.
Et en même temps, on ne veut pas non plus d'athlètes d'État sur le modèle soviétique du sportif fonctionnaire.
Exactement, c'est-à-dire que l'autre figure repoussoire, c'est effectivement, alors elle est très fortement fantasmée hein, d'ailleurs, parce que des travaux montrent que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais les représentations, c'est celle de l'athlète d'État soviétisé dans toute sa splendeur, et évidemment c'est la figure repoussoire parce qu'on est sur un modèle politique qui ne veut pas en fait ressembler au régime communiste. Donc on est coincé entre les deux, et on va choisir quelque chose qui va se fixer précisément que sur la question des aides matérielles et financières, sans jamais s'abriter derrière un statut.
C'est la formule de l'assistance qui est choisie. De la même façon qu'on assiste des personnes précaires avec des aides, là on va choisir d'assister les sportifs avec des aides et des primes. C'est cela, Sébastien Fleuriel ?
C'est à peu près ça. Alors c'est jamais tout à fait assumé comme ça, parce que oser dire que les sportifs seraient des assistés compte tenu de la charge morale qu'il peut y avoir sur cette question, on le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est bien ça qui est retenu, avec l'idée que en fait un sportif, quand il est performant, on lui octroie des aides, et ces aides en fait échappent aux formes traditionnelles des revenus, c'est-à-dire que ce sont pas des salaires, donc ça renvoie pas à des cotisations, ça renvoie pas à une protection sociale. Du coup, ces aides sont octroyées, données, et ça, l'avantage, c'est que elles sont retirées. Hein. Dans le témoignage qu'on a eu de Marie-Zévan Gépé, c'est très clair. Si vous êtes contre-performant, on vous retire cette aide.
Oui, et l'idée sous-jacente, c'est que la précarité pousse à atteindre l'excellence, Sébastien Fleuriel.
Ben, c'est l'hypothèse qu'on peut faire. Si on n'est pas allé jusqu'au bout, si on a moralisé à ce point l'idée que les sportifs ne devaient pas gagner de l'argent parce que c'était impossible, lié au désintéressement, on y a vu aussi l'intérêt de un sportif qui serait dans une situation inconfortable, et là le inconfortable, c'est vraiment à prendre dans le sens le plus large possible, c'est-à-dire aussi de l'inconfort social. On s'est dit que un sportif qui n'est pas en situation de confort est un sportif qui va rechercher la performance pour améliorer cette situation. Alors là, il y a de quoi discuter ou se poser des questions, parce que il y a une confusion entre deux types d'inconfort. Ce qui est l'inconfort sportif, si on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire l'idée de se dépasser de soi, de se remettre en question, donc de s'entraîner, de se stresser physiologiquement, etc. Là, ça peut tenir la route. Mais on confond cette forme d'inconfort-là avec l'inconfort social, en se disant, mais en fin de compte, s'il est tranquille dans son statut, dans son salaire d'une certaine façon, dans ses revenus, si il est confortable, alors on craint le risque que il soit pas à la recherche de performance. Bon, c'est une vision particulière de la performance.
Et je voudrais vous faire entendre le témoignage de Yona Egoui, qui est une lanceuse de javelot et qui est revenue pour les pieds sur terre sur les difficultés à financer son entraînement.
40 000 euros, c'est pour payer le loyer, l'alimentation, donc tous les besoins vitaux, pour payer les transports et ensuite pour la mobilité internationale. Quand j'ai commencé à établir une stratégie de qualification olympique, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je mette toutes mes cartes sur la table. Donc j'ai décidé d'employer toutes mes économies personnelles, d'utiliser mes aides étudiantes et j'ai travaillé dans une colonie de vacances. Je me suis dit, bon, ça va pas suffire, il faut encore aller chercher un petit peu plus. À ce moment-là, j'ai vendu des meubles sur Le Bon Coin et sur Marketplace, aussi sur Facebook, ça fonctionne super bien. Et il y a plein de gens qui sont venus vers moi pour me pousser à ouvrir une cagnotte litchi. Moi, au début, je voulais pas le faire parce que j'avais un peu l'impression de faire l'aumône. Et donc, au bout de 15 personnes qui me disent, envoie-moi ton RIB ou sinon ouvre une cagnotte, eh bien, tu ouvres ta cagnotte, ce que j'ai fait. À ce moment-là, il y a un journaliste qui s'est saisi de mon histoire et qui a commencé à la raconter au travers d'une interview, et l'interview a super bien marché. J'étais à la colonie de vacances en train de nettoyer les sanitaires, et à ce moment-là, il y a l'interview qui sort. Et à ce moment-là, ma cagnotte, elle a totalement crashé. En 15 minutes, alors que j'étais en train de nettoyer les toilettes de la colo, j'ai pris 7 000 euros sur ma cagnotte. Mais histoire incroyable.
Une histoire incroyable. Alors ces aides, on l'entend, les aides apportées par les pouvoirs publics sont loin de suffire, mais il faut quand même dire, Sébastien Fleuriel, que ces dispositifs d'aide, de primes, ont tout de même été améliorés au début des années 2010.
Oui, on a fait le constat. Alors c'est le, je dis on, c'est la classe politique a fait le constat quand même que ces sportifs étaient peut-être un peu maltraités, et il faut rapporter cette maltraitance bien sûr à relativiser, mais à d'autres statuts. Je pense par exemple aux parlementaires qui ont un statut protecteur assez fort, et il faut s'en réjouir, hein. Les propos n'est pas du tout de jalouser d'autres catégories. On pense aussi aux militaires qui d'une certaine façon eux aussi servent la France, et en fait donc du coup le statut qui n'est pas un statut qui n'a été qu'une qualité pour les sportifs est très très en deçà de ces statuts là en comparaison. Du coup en 2010 le constat est fait, et en 2011 au moment des vœux adressés au monde sportif sous qui un discours prononcé par Nicolas Sarkozy, il y a la reconnaissance du fait que ce statut est trop faible, et que compte tenu de la fierté nationale que ça engage, on pourrait sans doute faire plus. À partir de ce moment-là, on met en place quelque chose qui va être un début de compensation, avec la prise en charge d'un certain nombre de semestres, ou de trimestres plus exactement, pour prendre en compte ces trimestres au moment de la retraite. Ce qui n'était pas le cas avant, et pour cause, puisque c'était pas du travail, donc il n'y avait pas de cotisation. Là, on a mis au point une espèce de bricolage institutionnel, on peut l'appeler comme ça, pour reconnaître que finalement le temps passé comme sportif de au niveau à porter les maillots de l'équipe de France, on peut considérer que finalement c'est comme du travail, et que on peut reconnaître ce temps passé comme étant susceptible d'être valorisé au moment de la retraite.
Et donc concrètement, de quelles aides les athlètes peuvent-ils bénéficier? Il y a ce programme Ambition Bleue mis en place par l'Agence Nationale du Sport, l'ANS, qui garantit un niveau de ressources annuelles plancher à 40 000 euros, ce qui revient à 2 600 euros mensuels pour les athlètes de haute performance. On peut vraiment parler de progrès dans ce dispositif?
On pourrait dire que oui, parce que 2600 euros, c'est un début pour vivre, et surtout pour se dégager des autres préoccupations que des préoccupations sportives. Parce que ce qui est bien dit dans le reportage ici, c'est que du coup, il faut passer du temps à gagner de l'argent à côté, et en fait, tout ce temps-là détourne de l'orientation principale. Et c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on veut pas qu'ils soient tranquilles, mais malgré tout, on les envoie aller chercher de l'argent partout. Donc là, de ce point de vue-là, c'est une amélioration, sauf qu'elle touche une toute petite portion de ce qu'on appelle les sportifs de haut niveau. Il y en a en France entre 5 000 et 6 000. Et en fait, c'est l'édifice complet qui permet d'atteindre une espèce de haute pyramide dans laquelle on va avoir 400 ou 600 sportifs qui vont partir en délégation pour les Jeux Olympiques. Alors effectivement, là, les 400 ou 600 vont plutôt être bien aidés. Là, c'est incontestable. Sauf que, en fait, c'est tout l'édifice qu'il faudrait aider, et en fait l'édifice en dessous, il est invisible. Il n'y a pas du tout de mesures qui sont prêtes concrètement, qui sont prises concrètement pour eux, et d'une certaine façon l'édifice pourrait s'effondrer complètement, parce que on parle de 4 500 athlètes de haut niveau pour lesquels là les conditions d'existence sont particulièrement problématiques.
Oui, puis ces aides restent conditionnées à la performance. Il y a un culte de la médaille qui, pour certains, précarisent les athlètes et les met en danger. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien Fleuriel?
Ah oui, clairement, le culte de ce que mon collègue avait appelé la performance, et il est extrêmement prégnant dans tout l'encadrement sportif, il fait peser sur les athlètes des conditions de vie qui sont assez difficiles à soutenir.
Oui, parce que, vous l'avez dit, la sécurité sociale, c'est un point aveugle des politiques du sport, et ça participe en effet à fragiliser ces athlètes qui peuvent, justement, pour essayer d'aller le plus loin possible, eh bien, se blesser ou simplement avoir des accidents de parcours.
Oui, alors, et là aussi, tous ces accidents, qui étaient évoqués par Marie-Evan Gépé étaient très clairs, tous ces accidents ne relèvent pas de la protection du droit du travail, en fait. Donc, ces blessures, on peut dire qu'elles sont plutôt bien prises en charge d'un point de vue médical, parce que vous avez un entourage qui est ultra performant pour ça, mais en fait, ça, sur la gestion de la durée et dans le temps, et sur l'échelle d'une carrière professionnelle, toutes ces blessures, elles sont invisibles, elles sont pas reconnues comme des formes d'invalidité ni quoi que ce soit. Et du coup, on a quand même des athlètes qui, en sortant, se trouvent particulièrement mis en difficulté.
Et pour autant, on n'observe pas de mobilisation collective des athlètes justement pour protester contre leurs difficultés à exercer leur métier dans de bonnes conditions. Pourquoi cela, Sébastien Fleuriel ?
Alors, il y a plusieurs éléments. J'ai envie de reprendre presque le début de cette émission, c'est-à-dire que les événements sportifs, dont les Jeux Olympiques et tout particulièrement les Jeux Olympiques, produisent une espèce d'euphorie collective, politique, des dirigeants, etc., qui rend absolument toute forme de contestation inaudible, toute forme de mobilisation inaudible. Et c'est vrai des travailleurs dont on a parlé au début, c'est vrai des bénévoles, c'est vrai des ouvriers sur les chantiers, etc. Et c'est tout aussi vrai des sportifs qui, étant perçus comme étant chanceux d'une certaine façon de pouvoir participer aux Jeux Olympiques, on comprendrait pas très bien pourquoi ils viendraient se plaindre. Bah, parce qu'on ignore les conditions de travail, en fait, mais... Donc ça, c'est la première chose, c'est que le discours resterait relativement inaudible. Et par ailleurs, ces sportifs étant déjà très focalisés finalement sur la performance et donc sur le résultat sportif à court terme, ou du moins dans un calendrier qui est un calendrier essentiellement sportif, sont atomisés dans leur propre discipline, s'ignorent les uns les autres, se connaissent assez peu, sauf par médias interposés, et il n'existe pas de groupe de sportifs de haut niveau, tel qu'il existe des groupes professionnels qui peuvent se mobiliser. Donc, à partir de là, ces sportifs se trouvent isolés les uns les autres et sans doute un petit peu honteux de devoir aller réclamer des meilleures conditions de travail alors qu'on pense qu'ils sont plutôt heureux dans leur activité.
Depuis le début de cette émission, on a beaucoup parlé des personnes vulnérables qui souffrent de l'organisation de ces Jeux Olympiques à Paris. Est-ce que les personnes précaires pourront au moins profiter de la compétition ? Les JO sont-ils une grande fête populaire ? Réponse avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.
Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a une exigence et un impératif que nous avions tous dans ce projet, c'était celui d'accessibilité tarifaire, avec ce million de places à 24 euros pour les Jeux Olympiques et avec la moitié des billets à 50 euros et moins. Pour réussir ça, oui, il faut bien que certaines personnes qui sont en capacité de le faire achètent très cher des billets qui sont des moments absolument exceptionnels, particulièrement bien placés pour des finales qui seront mythiques. On a cette billetterie populaire avec 400 000 billets offerts pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment 260 000 billets offerts à notre jeunesse. Et les collectivités elles-mêmes ne sont pas en reste. Elles offriront au total presque 500 000 billets à leur public prioritaire. Donc on veut vraiment être au rendez-vous de cette fête populaire.
La ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, sur France Inter le 25 juillet 2023. Que vous inspire ces propos, Jeanne Lingard ?
C'est un peu hypocrite parce que les billets pas chers dont elle parle, c'est une toute petite partie de l'ensemble des billets qui sont vendus. On a un peu plus de 13,5 millions de billets vendus. J'avais noté 800 000 tickets proposés à 24 euros. On se dit 24 euros, c'est correct, quoi. Comme ça peut paraître accessible, bon, ça représente que 6% des billets. Donc, on est vraiment à la marge. Et en fait, les épreuves reines, celles que tout le monde a envie d'aller voir, type l'athlétisme ou la natation, sont hyper chères. Les prix montent à plusieurs centaines d'euros la place. Et donc, une personne, pas une famille, etc. Donc, on est quand même... les billets, c'est la première source de financement des Jeux Olympiques. Donc, c'est pas compliqué. Et c'est pour cette raison-là qu'ils sont chers. Et là-dessus, même s'il y a la promesse d'une billetterie populaire dans le 93 qui est bienvenue, c'est que 150 000 billets, on est vraiment à la marge de la billetterie des Jeux Olympiques de 2024.
Sébastien Fleuriel ?
Oui, je pense que l'événementiel sportif est maintenant de moins en moins compatible avec l'idée de public populaire. La façon dont c'est conçu et la façon dont les modèles économiques sont construits se tournent plutôt vers des segments de classe moyenne et de classe supérieure avec des modules de type VIP, etc. Et le système économique fonctionne plutôt sur ces catégories-là. Donc, les Jeux Olympiques n'échappe pas à cette logique-là, qu'on a trouvé aussi dans l'édification des grands stades, etc. C'est toujours ce même business model, si on peut l'appeler comme ça, qui fonctionne. Du coup, la question des publics populaires, je crois pas que ce soit, enfin, c'est une opération de communication nécessaire, bien sûr, mais je crois pas que ce soit vraiment l'enjeu pour le COJO.
Merci beaucoup, Jadeline Garde et Sébastien Fleuriel, de nous avoir éclairé sur ces enjeux autour des perdants de la fête olympique. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Jadeline Garde, c'est Paris 2024, une ville face à la violence olympique. Et il est paru aux éditions Divergence il y a quelques mois, en janvier. Et quant à vous, Sébastien Fleuriel, on peut vous lire dans Le sport de haut niveau en France, sociologie d'une catégorie de pensée, qui est publié aux presses universitaires de Grenoble. Et je voudrais remercier également Miguel Linares de France Bleu Loire-Océan qui a assuré ce duplex. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est Wreckage, le nouveau single du groupe Pearl Jam, qui signe son grand retour avec un album intitulé Dark Matter. Demain, Territoire, le défi de la troisième mi-temps. Pour ce troisième épisode de notre série consacrée à l'économie des Jeux Olympiques de Paris 2024, nous serons en compagnie de Geneviève Zambry-Marie et d'Alexandre Faure. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.